Vous écoutez
RMC.
Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Je m'éclate à voir cette équipe de Rennes, ouais. C'est la réalité.
Des heures incandescentes et des minutes blanches.
Magnifique pour Richard Lemus, Terrier. Martin Terrier qui suivait la frappe du gauche.
Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches.
Bah oui, à l'extérieur, quatre attaquants, c'est couillu comme ça. Et j'aime son discours.
J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme à l'enfant.
18h01, et oui, on est là, on est bien là sur RMC en direct dans Rotten sans flamme, comme tous les jours de la semaine, mais c'est une émission exceptionnelle, oui, parce qu'on est en déplacement, parce qu'on est délocalisé à Rennes, on est reçu ici au Roizen Park, magnifique, dans les salons, et j'ai du beau monde autour de moi, comme tous les jours, à commencer par la tour de contrôle, c'est Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça va ?
Ah bah ouais, on est ravis d'être là. Hein.
Ah, vous êtes bien amusé sur la prod. Hein.
oui.
Ouais, bravo.
Ah, quelle histoire d'amour,
oui,
quel chemin parcouru.
On va en parler, c'est pour ça qu'on est là. C'est
on n'a pas remis les critiques de l'époque non plus.
Non, bon, c'est bon, c'est derrière maintenant, c'est de l'histoire ancienne ça. Ça a fait avancer de toute façon. Bon, on a ramené un champion du monde, et oui, le meilleur joueur de la finale, la Coupe du Monde 98. Si vous vous en souvenez, c'est Manu Petit. Salut Manu.
Bonsoir monsieur.
Arrête de me regarder comme ça,
bah je sais parce que à chaque fois que tu vas le dire, donc.
Bon, enfin, c'est vrai, hein. Bah, je suis sûr que notre invité va être d'accord.
Ouais, non, mais je savais pas que le foot c'est un sport individuel, mais bon, voilà.
Non,
mais. Il me l'a ramené à chaque fois, donc je suis content.
C'est vrai. Écoute, on a un invité exceptionnel.
Bah oui.
Ouais, pendant 2 heures, et on le remercie. J'ai fait un champion du monde, Didier Deschamps. Quand j'étais joueur, entraîneur, Didier Deschamps, je l'ai eu. Et il est devenu champion du monde derrière. Donc,
grâce à toi, merci.
Je l'ai poussé.
C'était quand, ça?
Je l'ai emmené. Et Bruno, et on est avec Bruno Genesio aujourd'hui. Salut Bruno.
Bonsoir à tous.
Ça va
Bruno. Très bien, merci.
Bon, écoute, grosse séance cet après-midi. Il fait froid. Ouais. Pas facile d'être entraîneur, là, de ce temps-là.
Non, on a été obligé de décaler à cet après-midi, parce que le matin, le terrain est gelé.
Mm-hmm.
Mais ouais, on a fait une bonne séance. J-3, c'est toujours une séance essentielle dans la préparation du match.
On est également avec Xavier Grimaud, notre correspondant qui commente les matchs de Rennes. On l'a entendu juste avant dans la prod. Salut Xavier.
Bonsoir à tous.
Salut Xavier.
Salut Xavier.
Salut Jérôme.
Tu vas pouvoir apporter tes précisions, bien sûr, hein, et compléter ce qu'on va se dire avec Bruno, parce que pendant 2 heures, donc Rotten sans flamme sur le stade rennais, 2 heures sur votre club avec donc des invités. Bruno Genesio, le coach, est avec nous. On aura tout à l'heure Benjamin Bourigeaud, le leader d'attaque de cette équipe, vice-capitaine, le taulier sera avec nous tout à l'heure. Et puis on vous a préparé plein de surprises. Bruno, le monde du foot a des choses à vous dire. Plusieurs personnalités auront soit des messages, soit des questions à vous poser. Ce sera tout à l'heure à 18h30 et à 19h. Pourquoi les Rennais ne sont pas en équipe de France? On va lancer ce débat, on vous attend au 32-16 si vous avez des explications à nous donner. Il y a eu un coup de gueule de Florian Maurice après la Coupe du Monde, votre directeur sportif. On en parlera tout à l'heure à 19h. Julien Cazard.
Didier regarde pas la Ligue 1 de toute façon.
Didier regarde pas la Ligue 1?
Ah non.
Bah si, il regarde Monaco.
Bruno, ça l'intéresse.
Il regarde Monaco quand même.
Ah, Monaco, oui, il y va, c'est pas loin de chez lui.
Ah voilà. Bon. Ça faisait partie du coup de gueule de Florian Maurice d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Julien Cazard sera là. Il nous a dit, j'ai préparé un portrait de Bruno Genesio.
Je crains le pire.
Oh, ça va, il va s'occuper de toi. Au moins, nous, il nous laisse tranquille aujourd'hui.
Ce sera tout à l'heure à 18h45. Et puis, supporter Rennais, 32-16, bien sûr. Pour débattre donc avec Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes, qui est notre invité.
Ouais, Bruno, la première question, c'est de l'actu. Hein. Vous sortez d'une défaite en Coupe de France, là, ce week-end. C'est quoi l'état des lieux? Comment tu sens ton groupe actuellement?
Non, on a raté notre première mi-temps, surtout sur l'aspect offensif. On a plutôt bien défendu face à une équipe qui est en pleine forme, qui impose beaucoup d'intensité, notamment à domicile. Mais il nous a manqué après de la justesse technique, des bons déplacements, de la présence devant le but pour leur poser davantage de problèmes. Et on encaisse un but sur une erreur. Donc le groupe a bien réagi. On a bien sûr qu'on analyse à chaque fois tous les matchs, que ce soit des défaites ou les victoires. Maintenant, ce qui est important, c'est de se replonger tout de suite sur le championnat et d'avancer, parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de matchs très importants qui arrivent entre le championnat et la Coupe d'Europe.
Ce week-end, c'est Lorient. On rappelle la situation en championnat. Rennes est 5e de Ligue 1 avec 37 points, à 5 points du podium et de la Ligue des Champions. Il y a 4 défaites depuis le début de saison, mais il y en a eu 3 depuis la reprise post-Coupe du Monde, 3 toutes compétitions confondues avec le match de Marseille.
Ouais, c'est exactement là-dessus. Alors bon, l'objectif, la Coupe de France est passée maintenant. Vous êtes éliminé, vous n'êtes pas loin en championnat. Hein, vous êtes parmi les meilleures équipes françaises aujourd'hui. Mine de rien, bien à l'extérieur. J'ai l'impression quand même, il y a eu cette défaite à Reims, cette défaite à Clermont. Ces défaites-là, tu les axes sur quoi? Surtout la justesse technique que tu viens de nous dire là sur le match de Marseille, ou plus globalement sur autre chose?
Non, je pense qu'on doit aussi faire preuve de davantage de maturité à l'extérieur. Ici, on a l'appui de notre public, on se sent beaucoup plus fort, beaucoup plus en confiance. À l'extérieur, forcément, on a davantage de temps faible à gérer, et à chaque fois, on paye cash des petites erreurs par un manque de maturité, j'allais dire de vice même quelque part. Donc c'est là-dessus où on doit travailler. On a un groupe encore très très jeune, avec beaucoup de joueurs qui débutent ou qui ont très peu d'expérience. Donc c'est là-dessus où on doit travailler le plus.
Manu, c'est le constat, ouais, qu'on fait tous, c'est que est-ce que ça te plombe pas la saison justement, c'est d'avoir deux visages, un à domicile, un à l'extérieur. Alors certes, j'entends ce que tu dis par rapport au manque d'expérience, la jeunesse. Est-ce que tu penses vraiment que c'est l'appui du public qui fait la différence à domicile? Parce que à un moment donné, il va falloir quand même que les garçons deviennent plus matures, plus responsables sur le terrain et aillent justement aller chercher les points qui peuvent être très importants en fin de saison.
Oui, et puis savoir aussi parfois prendre un point. Par exemple, à Clermont, on était à 9 contre 11, un partout à la 94e minute. Il faut savoir se contenter de prendre un point. On veut jouer, continuer à jouer comme si on était 11 contre 11. On fait des petites erreurs qui nous font encaisser un deuxième but, qui nous coûte finalement un point, qui pourra être peut-être décisif en fin de saison.
Tu penses que c'est un problème de confiance aussi à l'extérieur? Parce que vous êtes la deuxième meilleure équipe à domicile cette saison. Donc c'est quand même, le constat, il est quand même à l'extérieur, c'est un autre visage.
Oui, et puis je pense qu'à l'extérieur, les équipes qui nous reçoivent ont envie aussi d'attaquer un peu plus, nous mettent un peu plus en difficulté que ce qui est le cas ici. Et forcément, on doit passer ces moments faibles, entre guillemets, de manière plus costaud que ce qu'on fait. Et à chaque fois, on encaisse un but dans ces temps faibles. Après, on doit courir après le score. Très souvent, on est mené au score. On doit courir après le score pour revenir. Et à chaque fois, il nous faut marquer 2 voire 3 buts à l'extérieur, ce qu'on arrive à faire parfois, mais qu'on peut pas faire à chaque fois, notamment quand on joue contre des bonnes équipes.
Manu, qu'est-ce que t'inspire Bruno dans son rôle d'entraîneur, même en tant qu'homme? Qu'est-ce que
tu sais qu'on s'est des fois pris la tête sur le plateau?
Oui, c'est vrai.
On va lui dire, parce que moi, même quand il était à Lyon, je trouvais que c'était extrêmement injuste et ingrat, toutes les critiques qu'il recevait, le traitement qu'il a subi, pas simplement lui, mais également sa famille, parce que j'oublie pas aussi ce qui s'est passé dans ton entourage. Il a fallu que tu t'exiles et après tu reviens ici. Donc quelque part, il y a peut-être un sentiment de revanche aussi, le fait que tu sois revenu à Rennes également. Quand je vois aussi Florian Maurice qui t'a accompagné aussi, et lui aussi a peut-être vécu aussi un sentiment d'injustice. Donc est-ce que aujourd'hui t'es pas dans cette démarche-là d'une revanche, ou de dire que finalement tous ceux qui m'ont critiqué aujourd'hui sont en train de changer d'avis à mon sujet?
Non, c'est pas du tout une revanche. Je pense ce qui m'a beaucoup apporté lors de mon passage à Lyon, justement, c'est de pouvoir faire un retour, une autocritique sur ce que j'ai aussi mal fait, parce qu'il y a des choses que j'ai mal faites. La seule chose que j'ai remis en question à ce moment-là, c'est que j'avais l'impression d'être vraiment le bouc émissaire de tout, c'est-à-dire que même quand il pleuvait à Lyon,
c'est allé loin quand même.
C'était de ma faute.
C'est allé très très loin.
Ouais. Alors que dans l'ensemble, les résultats étaient corrects. On aurait pu faire mieux. Et, je l'ai déjà dit, il y a des matchs où je pense qu'on aurait dû et j'aurais dû faire mieux. Mais c'est aussi un passage qui m'a énormément renforcé, à la fois en tant qu'entraîneur et en tant qu'homme.
Mais excusez-moi Bruno, qu'est-ce que vous aviez mal fait?
Non, mais comme chaque entraîneur, je pense qu'il y a des compos d'équipe.
C'est que sur le sportif, des choix de compos.
Il y a aussi en termes de communication, où parfois... Et ce qui a été terrible pour moi, c'est que le ressenti des gens était complètement l'inverse de ce que je voulais faire passer. Très souvent, on m'a fait passer pour une pleureuse, alors quelqu'un qui se remet pas en question, alors que je me remets en question tous les jours. Et quand on est entraîneur, je sais
obligé.
qu'il faut se remettre en question, parce que la science infuse, il y a personne qui l'a. Et c'est ça, ce décalage en fait entre ce que les gens percevaient et le message que moi je voulais faire passer. Et certainement que parfois j'ai pas été suffisamment bon pour faire passer le message que j'avais envie que les gens comprennent.
Je pense que des fois aussi, t'as trop laissé faire certaines choses sur le plan médiatique. Moi, quand je regardais ça de l'extérieur, alors qu'on se connaissait pas, je me suis dit, mais si j'avais été à ta place, des fois, je serais montré au créneau, leur dire, c'est bon, quoi, arrêtez, quoi, parce que ça va beaucoup trop loin. Vous attaquez l'homme au lieu d'attaquer le technicien.
Oui, mais...
Quand tu vois aujourd'hui la succession d'entraîneurs avec les mêmes résultats, tu te dis, il n'y a pas un problème à Lyon, quand même?
Oui, mais en fait, quand j'ai fait ça, c'est là où on m'a taxé un peu de pleureuse, de quelqu'un qui cherchait des excuses, qui ne se remettait pas en question. peut-être qu'à l'époque, ça aurait dû être quelqu'un d'autre qui aurait dû faire ça à ma place pour
À Lyon, l'entraîneur est souvent abandonné. On s'en est rendu compte aussi après et avant.
Non, abandonné, je dirais pas ça parce que j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup
je pense
de
que les joueurs aussi t'ont pas beaucoup défendu non plus.
Mais ils ont contrairement à ce qu'on pense, il y a quand même beaucoup de gens qui ont tout fait pour entre guillemets me sauver, j'allais dire me renforcer. J'ai fait 3 ans et demi quand même, 3 ans et demi dans un club comme Lyon avec 3 qualifs en Champions League sur les 4 années, une demi-finale de Coupe d'Europe. Il y a des choses j'aurais dû faire mieux, mais dans l'ensemble, on a quand même rempli les objectifs globalement de ce qu'on me demandait. Donc voilà, il y a bien sûr des regrets, mais aujourd'hui quand je repense à tout ça, c'est vraiment une période qui m'a beaucoup aidé dans mon métier et aussi dans ma vie d'homme, parce qu'il y a l'entraîneur, il y a l'homme, c'est comme les joueurs.
Ça t'a fait grandir, tu penses?
Ouais, beaucoup. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont aidé aussi, qui m'ont fait comprendre certaines choses, qui m'ont permis de prendre beaucoup de recul sur ces critiques, justement. Et à un moment, au début, je voulais me battre avec tout le monde. Jérôme est là, donc des fois, je me disais, putain, mais je vais l'attraper, c'est pas possible.
Après, grâce à moi, t'es devenu le meilleur entraîneur en Ligue 1.
Voilà.
Mais, comme quoi, j'ai permis ta remise en question aussi.
Exactement. Et puis après, on m'a dit, mais il y a des choses que tu maîtrises et des choses que tu maîtrises pas. Concentre-toi sur ce que tu maîtrises, sur ton travail, comment tu dois améliorer ton équipe, ce que tu peux faire. Et à partir de là, bah, ça a été une autre démarche et qui m'a certainement permis de progresser aussi.
18h11, vous êtes sur RMC, c'est Roten sans flamme exceptionnel en direct de Rennes au Roazhon Park. On est avec Bruno Genesio, l'entraîneur du club.
Ouais, Bruno, bah tu tombes bien, on va revenir dans ce qui se passe aujourd'hui à Rennes. Donc t'es un entraîneur beaucoup plus mature aujourd'hui. De toute façon, tu l'expliques et puis ça se voit. Tu fais partie des références en termes de coach français. Donc c'est une pression supplémentaire pour essayer de faire grandir encore ton équipe et de la faire gagner. On parlait des manques et tu l'as dit, hein, la justesse technique, la qualité des matchs à l'extérieur,
la maturité.
Pour ça, tu as envie de renforcer ton équipe, très certainement, sur déjà le mercato là d'hiver.
Oui, bah déjà par la force des choses, parce qu'on a perdu quand même un de nos joueurs les plus importants, si ce n'est notre meilleur joueur, qui est Martin Terrier. On a aussi Tcheka qui s'est blessé gravement, donc on a 2 joueurs qui sont... pour Martin, c'est sûr, out jusqu'à la fin de saison. Tcheka,
peut-être un revenir à la fin.
Peut-être
mais bon.
Pour la fin. On a aussi Lorraine Sassignon qui vient de se blesser assez gravement à Marseille et qui va avoir 2 ou 3 mois d'arrêt. Donc évidemment qu'on a besoin numériquement de remplacer au moins 1 ou 2 joueurs.
J'ai croisé Toko Ekambi dans le train, donc il s'arrêtait à Rennes ou pas?
Non, je pense pas.
Non, il allait jusqu'à Saint-Malo.
Non, il fait partie des joueurs qu'on a ciblés parce qu'il il remplit beaucoup de cases qui correspondent à ce qu'on recherche. C'est un joueur qui connaît la Ligue 1, qui a de l'expérience, qui est capable de jouer sur le côté, qui peut capable de jouer dans l'axe, qui est capable de jouer dans différents systèmes. Je sais qu'à Lyon, il a un passage difficile. Je connais le contexte et. Et je me dis que dans un contexte plus rassurant, où il sera plus en confiance, on peut aussi bien le relancer.
De toute façon, Rennes, c'est le club qui relance les Lyonnais. Hein. Bah, Genesio, Maurice, Terrier, Guiri,
oui, c'est vrai,
un de plus.
C'est pas faux, mais est-ce que tu as parlé avec lui ou son entourage? Est-ce qu'il a envie de venir, lui?
Oui.
Donc,
c'est
déjà bon signe.
Il y a une bonne avancée. Après, on n'est pas seul et forcément...
Idéalement, il y aurait combien, tu souhaiterais combien de recrues?
Bah déjà devant, c'est très important et urgent. Ouais, plus un joueur qui correspond au profil de Martin.
Oui, voilà, d'accord.
Mais c'est là-dessus, moi.
Je sais ce que tu vas dire, Jérôme. D'accord. On va le faire dans un instant, ce gros morceau, parce que justement, pour Jérôme, il n'y a peut-être pas besoin de remplacer Terrier numériquement. La solution, vous l'avez peut-être dans l'effectif, Bruno. En tout cas, c'est ce que pense Jérôme. On en parle dans une seconde. On continue donc notre Roten sans flamme exceptionnel en direct de Rennes avec Bruno Genesio, l'entraîneur qui est avec nous. À tout de suite.
RMC, Roten sans flamme en direct de Rennes avec Ouest France. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h16 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, un Roten sans flamme exceptionnel. Oui, on est en direct de Rennes, il y a du beau monde autour de la table, à commencer par l'entraîneur en chef du Stade Rennais, Bruno Genesio, qui nous fait plaisir d'être là pendant toute l'émission, bien sûr. On est avec Manu Petit aussi, avec Jean-Louis Tour. Jean-Louis, on continue. Hein.
Oui.
On a les thèmes, on va tous les aborder.
Avec Xavier Grimaud également.
Xavier Grimaud, bien sûr, qu'on n'a pas trop entendu pour l'instant, mais qu'on va entendre.
Je laisse parler
Bruno. Il fait que manger les crêpes aussi, Jean-Louis. Ouais. Donc dis-lui d'arrêter.
Non, je croyais que je m'en étais occupé.
Ah oui, toi aussi. Oui.
Tout à l'heure, le monde du foot a des messages pour vous, Bruno. Ce sera à 18h30, mais donc on est toujours dans cette émission exceptionnelle en direct de Rennes et on revient sur ce moment marquant de votre saison, la blessure de Martin Terrier. C'était le 2 janvier contre Nice. Terrier, c'est 12 buts, 5 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Un absent jusqu'à la fin de la saison de poids. Mais pour toi, Jérôme, il n'y a peut-être pas besoin de le remplacer numériquement. En tout cas, d'aller chercher quelqu'un absolument.
Non, parce que j'en ai parlé avant l'émission avec toi, Bruno. Et c'est vrai que le mercato d'hiver, c'est un mercato d'appoint. Alors là, la blessure de Martin Terrier, vous pouvez pas l'anticiper. Dans tous les cas, on n'anticipe pas ce genre de blessure, malheureusement. Et on le souhaite pas, surtout. Donc déjà, on lui fait un gros coucou pour qu'il s'accroche dans ces moments difficiles. Mais moi, j'ai toujours dit, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, que la réussite du Stade Rennais, c'est collectif aujourd'hui. Comme Lens, par exemple, même si Lens, c'est moins encore, c'est plus jeune que le Stade Rennais qui s'est mis en place depuis un certain temps quand même dans ce mécanisme-là. Et je me dis que remplacer poste pour poste un joueur comme Martin Terrier, ça se trouve pas au mercato d'hiver, parce que déjà ça coûte trop cher, je pense, pour le Stade Rennais. Et après prendre un joueur moins entre guillemets, attention, c'est pas faire injure à Toko Ekambi ou à d'autres. Je trouve que ça peut passer par le collectif. Et puis en plus, et là c'est ma deuxième question, c'est que j'ai l'impression quand même que dans ton effectif, tu as des joueurs qui peuvent évoluer sur le côté gauche, par exemple Doku. Alors c'est pas les mêmes profils, on est d'accord, mais j'y crois moi. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur
ce genre de recrutement? Il y a Jérémy Doku et Kamaldine Souleymana
aussi, ouais.
qui peuvent jouer à ce poste-là avec des profils complètement différents. On peut pas comparer Jérémy ou Kamaldine à Martin dans le style de jeu. Ce sont plus des joueurs de percussion, de dribble, de vitesse. Martin est plus un joueur capable de faire le lien entre le milieu et l'attaque, capable de finir, de faire marquer. Et ce sont de très jeunes joueurs encore, on a tendance à l'oublier. Et je les défends souvent par rapport à ça, parce qu'on a une exigence assez incroyable, parce que c'est vrai qu'ils ont des qualités très fortes, mais on oublie qu'ils ont 20 ans et qu'ils ont aussi besoin de se développer et d'apprendre. Et
nous, on est le poids du transfert aussi, ça brûle.
Aussi. Et là, on est dans un enchaînement de matchs qui vont être très, très importants, de Coupe d'Europe. Et je pense qu'on a quand même besoin d'un joueur supplémentaire, même si Jérémy et Kamaldine, bien sûr, sont des joueurs sur lesquels je compte.
Moi, j'ai l'impression, alors t'es mieux placé que moi, encore une fois, mais mon regard d'extérieur comme ça, je me dis, ils ont quand même besoin, quand tu perds Terrier, qui met donc plus de 12 buts, comme l'a dit Jean-Louis, d'avoir un buteur.
C'est ça.
Alors, en l'occurrence,
c'est pour ça que je suis pas vraiment d'accord avec toi.
Non, mais je me dis que Toko Ekambi, si c'est Toko Ekambi,
un buteur, c'est,
je me dis que c'est pas
les rues, hein.
C'est pas, ben non, mais c'est pour ça toute la difficulté, elle est là, parce que dans ton effectif, autant j'ai l'impression que les joueurs de côté, tu peux avoir, même si c'est pas les mêmes profils, autant dans la finition, c'est des jeunes joueurs aussi, hein, tu l'as dit, la jeunesse, c'est Akalimwendo, il y a Guerri. Donc c'est pas les mêmes profils aussi. J'ai l'impression, du moins pour moi, je me dis, s'il faut renforcer l'effectif du Stade Rennais aujourd'hui, c'est un buteur, essayer de trouver la perle rare. C'est dur, hein.
Ouais, mais c'est ce que tu as dit à ce moment-là de la saison, c'est-à-dire un mercato hivernal pour trouver un buteur.
Bah il y a Mofi qui va bouger. Ouais. Vous avez pas essayé de vous mettre sur Mofi?
Oui, mais là on rentre dans des prix différents.
Ils sont au-dessus.
Ouais. Oui.
Donc
et d'autant que vous avez déjà investi sur des attaquants l'été dernier.
Et puis on va avoir après des retours. Le Martin va revenir la saison prochaine. Donc aujourd'hui on a plus ciblé un joueur en prêt. Qu'on a envie de relancer, pour reparler de Karl, puisque on en parle, c'est un garçon qui a marqué pas mal de buts quand même l'année dernière, toutes compétitions confondues. Je crois que c'est 18 buts à Lyon, si ma mémoire est bonne. Donc ça reste un garçon qui est capable de marquer aussi, qui nous amène de la profondeur, qui nous amène à un style un petit peu différent. Et voilà, c'est plus ce profil de joueur-là.
Bon, il est déjà arrivé alors.
Je sens
que par exemple Toko Ekambi, pour parler de lui, hein, et puis de toute façon on n'apprend pas ça aux gens, c'est sorti dans la presse aujourd'hui, et puis tu viens de le confirmer qu'il y avait des bonnes relations. J'ai l'impression quand même que tu te dis, ce mec-là, je vais pouvoir moi le relancer, et qu'il y a ce côté affectif qui va jouer.
Ouais, parce que je crois beaucoup à ça aussi. Bien sûr, tout à l'heure on parlait du joueur et de l'homme. Je crois aussi beaucoup à la relation humaine dans un groupe, que ça soit entre les joueurs et le staff, entre les joueurs et l'entraîneur.
Et c'est pour ça que ton groupe vit bien. C'est
bien sûr,
ce que tu disais, c'est, parce que c'est à l'image de l'entraîneur. Ça, c'est vrai.
Je sais pas, si c'est à l'image de l'entraîneur, mais en tout cas, c'est un
ensemble.
C'est toi
le garant quand même,
oui,
de ça.
Bien
sûr. C'est toi le chef d'orchestre. C'est toi qui.
C'est ce que je souhaite.
Tu vois, moi, j'ai eu la chance de vivre à Monaco une période fantastique avec Didier Deschamps. Didier était le garant de ça,
ouais,
de cette ambiance entre les joueurs et tout. Il pouvait y avoir des tensions parce qu'il y en a dans tous les groupes. Mais malgré tout, t'as une ambiance qui est là, le plaisir de se retrouver le matin, de t'entraîner. Et je pense que ça, c'est important aussi que tu aies la main mise sur ce groupe.
Ouais, moi, j'attache beaucoup, beaucoup d'importance à ça. Et j'ai une équipe avec moi aussi, un staff avec moi qui entretient ça, parce que ça s'entretient, ça se renforce chaque jour. Parce que comme tu le dis, tout n'est pas toujours rose. Hein. Il y a toujours des conflits. Il y a des joueurs qui ne jouent pas, qui ne sont pas contents de ne pas jouer. Mais tant que ça se règle dans les règles de l'art, dans l'échange, dans le dialogue et que l'ambiance de travail reste comme elle est là, on aura plus de garanties pour avoir des résultats, j'en suis persuadé.
Moi, j'avais une question aussi par rapport à ça, au fait que vous parliez un élément qui est pour moi est très important, parce qu'un buteur, comme tu dis, ça ne court pas les rues. Est-ce que ça peut passer aussi par un changement de système, comme tu l'as fait récemment au niveau défensif?
Ouais, c'est en grande partie la raison pour laquelle on a changé de système contre Paris et contre Marseille. Mais dans mon esprit, j'aimerais qu'on retrouve ce qui a fait notre force, à savoir beaucoup de variété dans notre jeu, beaucoup de permutations, beaucoup de prises de risques offensives. Et ce système nous a renforcé défensivement, donc c'était le but contre Paris.
Et ça a relancé des joueurs aussi.
Ça a relancé
comme
des
Brandon,
joueurs.
Brandon, par exemple.
Exactement. Mais peut-être qu'on est moins dangereux, on se crée moins d'occasions offensivement.
Donc, et ça relance un autre joueur contre Paris en tout cas, et je sais Xavier que tu voulais en parler, c'est Lovro Maier.
Oui.
Bon, ça l'a moins relancé contre Marseille. Mais...
Oui, une question sur Lovro, Bruno, parce que c'est un joueur qui est censé devenir un top joueur mondial. En tout cas, on le voit comme ça. Il est capable de faire des matchs d'un excellentissime et des matchs moins bons comme à Marseille. Il a vraiment été en dessous du côté de Marseille.
Il y a du Roten un peu en lui.
Oui, peut-être l'intermittence.
La vision.
Ah, je crois que tu
après, j'étais un peu plus régulier.
Non, il a été tout le temps titulaire en Europa League, mais 50% titulaire seulement en Ligue 1. On a le sentiment que tu as du mal peut-être à l'intégrer totalement. Est-ce que ça vient de lui? Est-ce qu'il a du mal un petit peu à ce niveau-là?
Non, mais...
On a l'impression d'en attendre plus quand même.
Non, mais je crois que c'est un peu à l'image de l'équipe d'ailleurs, Lovro. Très souvent, très très performant à domicile, lorsqu'on a la possession, lorsqu'on est installé dans le camp adverse, lorsqu'on a le ballon et la maîtrise du jeu. Et puis, c'est plus difficile quand, comme à Marseille, on est un petit peu bousculé physiquement, quand il faut... défendre un peu plus, être dans le combat, et voilà. Donc ça fait partie aussi du caractéristique du joueur, et c'est là-dessus où il doit progresser. Il le sait, c'est un garçon très intelligent, qui est très lucide, et il sait qu'il a des progrès à faire. Mais à l'image de notre équipe, c'est dans ce domaine-là qu'on doit faire beaucoup de progrès.
Et tu le sens stagner un petit peu ou...
Non, pas stagner, non, au contraire, je trouve qu'il progresse. Le dernier match qu'il a fait contre Paris était très bon, dans un système à 3 ou à 5, peu importe. Contre Nice, il avait été très très bon aussi. Voilà, maintenant, c'est dans des matchs où il y a plus d'intensité physique, d'engagement, qui doit être là, capable, sous pression, de faire parler sa technique aussi, d'être capable de résister à tout ça.
C'est là que c'est toutes les limites du fait que l'ambiance soit bonne, que ceci, cela. Je pense que les résultats.
C'est différent.
Oui, parce que c'est plus dur à l'extérieur, on le sait tous, hein, on a joué au foot. On sait que les matchs sont plus difficiles parce que tu te fais rentrer dedans, parce que tu te fais bousculer. Et que là, il faut avoir un peu plus de caractère, de personnalité. Rappelle-toi qu'on s'était vu au mois de mai dernier, au mois de juin dernier, là, quand on a fait la réconciliation. moi, c'était les critiques que j'avais mis sur toi, c'était surtout ça. C'était le côté méchant pour faire réagir des joueurs qui sont peut-être un petit peu par
c'est
moment
un peu
dans le confort.
Ce que j'ai dit tout à l'heure également.
Ouais.
Quand tu critiques à Lyon, tu vois.
Là, là-dessus, tu sens que t'as passé un cap, t'as progressé là-dessus pour essayer de les réveiller et qu'ils s'endorment pas.
Oui, je pense. Mais après, c'est toujours pareil. On croit toujours qu'il suffit de taper sur les joueurs, d'hurler. Je suis pas là-dedans parce que c'est pas comme ça que je pense qu'on peut faire avancer les choses. Mm-hmm. Je suis plus dans la prise de conscience, dans leur montrer les choses, leur expliquer les choses pour les faire progresser. On sait qu'on a une carence là-dessus dans l'engagement sur certains matchs, notamment à l'extérieur, où comme tu dis, on se fait rentrer dedans, on se fait tamponner. Et c'est là où on doit être capable de résister et puis après d'imposer notre jeu. Mais à Marseille, par exemple, on fait une première mi-temps où on résiste Et puis début de deuxième mi-temps,
ouais, ça va mieux.
On prend un peu le dessus. Malheureusement, on encaisse un but un peu idiot. Donc ça montre que l'équipe, elle progresse. De la même manière, l'année dernière, on avait énormément de mal à inverser la tendance. C'est-à-dire que quand on était mené, on avait énormément de mal à faire un nul ou à gagner. Cette année, ça nous est arrivé plusieurs fois de le faire. On a réussi à l'extérieur, même en Coupe d'Europe, à imposer des choses, même si on peut avoir plein de regrets sur le match de Fenerbahçe, mais ce qu'on a réussi à faire pendant une heure là-bas, dans un contexte qui est quand même pas celui le plus favorable,
pas facile,
ça montre que l'équipe a du caractère, a gagné en caractère. Maintenant, il faut qu'on soit capable de le reproduire plus souvent.
Oui, parce que je pense que les épopées que vous avez faites, notamment en Coupe d'Europe ou en Coupe de France ces dernières années, devraient vous servir justement dans ce sens-là.
Oui, oui, mais après, le groupe a beaucoup changé aussi. Et on doit encore grandir. C'est un axe de progression important de notre équipe.
Bruno Genesio sur RMC. Dans Rotten sans flamme, dans une seconde, le monde du foot a donc des questions pour vous, Bruno. J'ai un entraîneur de caractère. J'ai des joueurs qui ont 7 titres de champion de France. Et j'ai un entraîneur qui va peut-être vous piquer le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 à la fin de l'année.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.